Deuxième temps d'une série consacrée à l'histoire, des relations entre mères et filles dans la fabrique de l'histoire. Après avoir évoqué le rouge et le bleu hier, le documentaire de ce matin croise les portraits d'une mère et d'une fille, toutes deux historiennes. Avant demain de nous intéresser à l'éducation des filles, après demain de nous demander si, comme on l'a dit souvent, certaines cultures ont été matriarcales, eh bien aujourd'hui, Séverine Niattard et Véronique Samouinoff nous proposent, dans le documentaire du mardi, de dresser les portraits croisés de Catherine Kokri-Widrowicz, historienne de l'Afrique, et de sa fille Natacha Kokri, historienne du XVIIIe siècle et de la vie matérielle au XVIIIe siècle. Comment se sont-elles transmises, se sont-elles même transmises les secrets de fabrication du travail historique? C'est ce que nous allons écouter jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire de ce matin.
Je voulais être historienne et ça très tôt. Alors la première anecdote, je me souviens, c'est que j'ai volé le petit Lavis. Ça devait être l'année où mon père est mort, ça devait être en 42-43. Et j'avais une grande copine, Denise Petitpas. Comme c'était la guerre, on avait seulement un manuel pour deux. Et je ne sais pas pourquoi, c'était elle qui devait le garder. Le petit Lavis, ça plaisait beaucoup. Alors un soir, subrepticement, je l'ai pris dans mon cartable au lieu de lui donner. Et je me souviens encore, à genoux au pied du lit de ma sœur, regardant passionnément les images du petit Lavis. Alors ma mère est montée, elle a tout de suite compris que j'avais chipé le livre. J'ai eu un grand discours sur le vol, c'est très mal. Et à partir de la sixième, j'ai su que je voulais faire de l'histoire. Vous dire pourquoi, j'en sais rien.
L'histoire de mère en fille.
Je vais encore faire tomber des mythes sur la vocation d'historienne, parce que j'ai très longtemps hésité entre lettres et histoire. Au cours de ma scolarité dans le secondaire, je n'ai eu que des profs d'histoire lamentables. Et quand je suis arrivée en Hippocagne, j'ai choisi par défaut, pour dire les choses véritables, histoire géo, simplement parce que je ne voulais pas faire de latin ni de lettres anciennes. Après, je n'ai pas regretté mon choix, heureusement. Mais je me suis rendu compte que j'avais une manière de faire de l'histoire très attentive aux mots, le sens des mots.
Beaucoup plus littéraire que moi, on n'est pas du tout pareil. Moi j'écrivais mal, hein. Je trouve que Natacha écrit élégamment, mais moi j'écrivais mal. Je ne suis pas littéraire. Et j'ai toujours pensé que toi tu étais littéraire comme ton père en fait.
Catherine Kokri-Widrowicz est une spécialiste de l'histoire de l'Afrique. Née en 1935, elle entame des études d'histoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après un parcours d'excellence, elle se destine à l'histoire médiévale, puis choisit l'Afrique comme terrain, au début des années 1960, en pleine période de décolonisation. L'historiographie africaniste française s'apparente alors à une histoire coloniale. Parmi ses quatre enfants, Natacha Kokri, son aînée, choisit à son tour l'histoire comme métier. Elle devient spécialiste de la ville et de la consommation au XVIIIe siècle.
Nous sommes chez vous, donc, Catherine Widrowicz, à Malakoff.
Oui.
Dans cette maison, il y a un petit jardin, qui a eu un peu de soleil.
Oui.
Et donc, on vient un peu vous solliciter pour connaître votre itinéraire d'historienne que vous avez transmis ou non à votre fille, Natacha, qui est aussi une historienne.
C'est elle qui sait si je lui ai transmis quelque chose ou pas. Moi, je n'en sais rien.
Et dans cette pièce où on voit un petit peu, oui, votre itinéraire d'historienne d'une certaine manière, parce que il y a des masques, il y a des tableaux africains qui disent un petit peu voilà, toutes vos recherches, vos voyages.
Bon, il y a des souhaires sénégalais, ça j'aime beaucoup. Chaque fois que j'allais au Sénégal, j'y suis beaucoup allée, j'en achetais. Il y a des masques aussi. Je n'ai rien de très grande valeur. D'une part, je n'avais pas beaucoup d'argent. D'autre part, j'achetais ce que je trouvais beau. Et c'est des souvenirs de voyage, effectivement. Malheureusement, comme ça a commencé il y a très longtemps, quand je n'ai pas marqué derrière ce que c'était, il y en a dont j'ai oublié d'où ça vient. Enfin. Et puis mon mari, qui était géographe urbaniste, Michel Kokri, il est venu assez tard à l'Afrique parce que c'était mon champ, donc il avait le sien, qui était l'urbanisme contemporain, qui était plutôt les grandes villes industrielles du monde occidental. Et puis, nous sommes mariés en 59, je crois, et la première fois qu'il est venu me retrouver au Sénégal, c'était en 72. Donc, vous voyez, c'était 70 ou 72. Et bon, de fil en aiguille, il s'est intéressé pas mal aux villes africaines, la géographie africaine. Et après sa retraite, il était très doué sur le plan artistique et il a fait des collages. Donc il y a pas mal de ces collages, il y en a un certain nombre. Celui qui est juste derrière vous est tout à fait inspiré par l'Afrique, évidemment.
Il y a beaucoup de collages aussi chez votre fille,
Natacha. Oui, évidemment. Elle aimait beaucoup les collages de son père.
Natacha Kokri, donc nous sommes chez vous. Il y a voilà, un piano, beaucoup de CD de musique, des livres, plein de petits objets. Aussi sur l'étagère.
Oui, avec les objets qui me sont chers hein, et des livres. Mais en fait, je ne suis pas une collectionneuse de livres. Je n'ai pas de fétichisme par rapport aux livres. Donc ceux qui sont là, c'est ceux qui pourraient me servir. Puis il y a aussi beaucoup de... finalement de souvenirs de mon père ici, enfin dans cette pièce, puisque beaucoup de collages, enfin il était collagiste. Tout ce que vous pouvez voir ici ou là, c'est des collages et des cartes de vœux qu'il nous offrait traditionnellement. Et puis ce piano, finalement ça doit être le seul objet auquel je tiens dans toute ma maison, puisque c'est le piano de mon arrière-grand-père qui a été déporté parce que dénoncé par des voisins pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un Pleyel des années 30 et ce piano est tout ce qui reste de lui.
Mes parents, moi j'avais 5 ans au début de... à peine 4 ans et demi, 4 ans.
Catherine Kokrividovitch.
3-4 ans au début de la guerre et mes parents, bien informés par une voisine qui était allemande, ne s'était pas déclaré comme juif. Et mon père est mort en 1942, de suite d'une blessure de guerre. Mon grand-père paternel s'est suicidé parce que c'était un russe immigré. Il est arrivé en 1899. Son fils est mort en 1942. Il n'y avait plus rien qui le rattachait, donc il s'est suicidé. Mon grand-père maternel a été déporté, a été arrêté, dénoncé dans son immeuble parce qu'il ne portait pas l'étoile jaune, parce que lui s'était déclaré, il s'appelait Veille. Tandis que ma mère a fait passer, qui était donc jeune veuve, qui s'est débrouillée d'une façon extraordinaire pendant toute la guerre pour nous sauver. Le nom de Vidrovitch pouvait passer pour un nom de russe blanc qui avait fui la révolution de 1917, plus on avait 5 ou 6 noms. Je me souviens encore, pour aller chercher pas des chaussures chez le cordonnier, je disais à ma mère, ah, chez le cordonnier, on a quel nom ? Donc, je vivais dans un univers qui était pour moi normal, mais qui n'en était pas moins dangereux. Je savais en tous les cas que si on me posait n'importe quelle question, un peu surprenante, je devais répondre « je ne sais pas ». Et ça m'est resté jusqu'à la quarantaine. Quand j'étais interpellée de façon un peu inattendue, je répondais automatiquement « je ne sais pas ».
Votre père, donc Natacha Kokri, Michel Kokri, qui était géographe, et donc il s'est marié avec votre mère avant les années 60, hein,
oui,
je crois.
Oui, fin des années 50. Et donc oui, géographe, puis urbaniste. Et spécialiste des villes.
Il était issu de quel milieu, du coup, votre père ?
C'est un milieu rural, d'un côté, du côté paternel, et son propre père est le premier qui est devenu un intellectuel, pour aller vite. Donc c'était famille paysanne dans la Loire, et il s'appelait Paul Kokri, et il est devenu plus tard, des années plus tard, un des créateurs des lycées agricoles. Voilà. Mais sa mère, à lui, ma grand-mère paternelle, donc, était... institutrice et issue de toute une lignée d'instituteurs, directeurs d'école. Voilà.
Vous êtes élevée du coup par votre mère et votre grand-mère, hein,
oui, c'est ça.
Catherine,
oui. Ma grand-mère paternelle et ma mère, oui. Nous vivions à 4 avec ma sœur, en voyant extrêmement peu de gens, puisque nous étions clandestines. Donc je sais très bien ce que c'est que la clandestinité. Et a posteriori, je dis quelquefois, je sais ce que c'est que de vivre, enfin, j'ai expérimenté ce que c'est que de vivre en étranger dans son propre pays. Donc je pense que ça aussi, ça a joué peut-être pas dans mes choix, mais en tous les cas dans mes contacts avec les collègues africains, d'être très sensible à tout ce qui les choque, dont mes concitoyens français, y compris mes collègues, n'ont pas la perception.
Et votre mère, elle travaillait ou pas du coup?
Alors ma mère était femme au foyer. Ma mère avait voulu faire sa médecine. Elle avait fait ce qu'on appelait PCEM la première année. Puis elle s'est mariée tout de suite. Elle a eu ma sœur aînée. Elle était femme au foyer, choyée, avec un mari qui l'adorait. Donc c'est le souvenir qu'en a ma sœur. Et pratiquement du jour au lendemain, elle a perdu son mari. Elle a perdu son beau-père. Elle a perdu son père 6 mois après. Il fallait qu'elle gagne sa vie pour sauver ses deux filles petites, et elle avait sa belle-mère sur le dos, si je puis dire, qui était très 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 courageuse et très bien, mais qui vivait avec nous pour nous élever. Alors mon père était ingénieur des ponts, il était à Beauvais. On lui a proposé des travaux de dactylo. Elle a pris la dactylo, elle a dit ça m'ennuie, c'est pas possible, et elle s'est débrouillée toute seule. C'est-à-dire, elle a dit, puisque je n'ai pas fait d'études, la seule chose que je peux faire, c'est du commerce. Elle a acheté un petit pas de porte à Paris parce qu'elle pensait qu'on était trop connus à Beauvais, donc il fallait se cacher dans la grande ville. Comme elle était très active, intelligente, elle a une petite boutique de rien qui marchait bien, qui servait aussi de blanchisserie. Puis elle l'a vendue pour avoir un magasin de prêt-à-porter. Puis après, elle a eu un magasin d'ameublement. Bon, bref, elle a fait ça jusque au début des années 50, je pense, dans la fin des années 40. Et là, elle en a eu assez. Donc, elle a vendu. Elle est allée à l'école des arts et des métiers. Elle a fait la formation d'acousticienne. Elle a exercé comme acousticienne jusqu'à la fin de sa vie, en étant très heureuse d'avoir un métier un peu paramédical. Non, c'était une femme extraordinaire, ma mère.
Mais en tous les cas, elle va vous pousser, vous, à faire des études?
La question ne se posait pas, je veux dire. On était une famille de femmes qui travaillaient. Enfin, ma mère travaillait, ma mère partait le matin, elle arrivait le soir à 8h du soir, ou 7h du soir, je ne sais plus. Elle disait pendant un quart d'heure, laissez-moi, je m'enferme dans ma chambre pour me remettre. Puis après, elle sortait pour s'occuper de nous, donc... L'idée de ne pas travailler ne m'a jamais effleurée. Je n'ai pas été féministe pour revendiquer de travailler. Alors le lycée, c'était le lycée Lamartine, puisqu'on était dans le 9e arrondissement, qui était un arrondissement résistant. Seulement, mon grand-père a été dénoncé, ma mère nous a fait déménager dans les 48 heures. Alors là, pour les études, pas question d'interrompre l'année scolaire. Donc on était à l'autre bout de Paris et on a continué l'année scolaire au lycée Lamartine jusqu'à la fin de l'année. Ce qui était une certaine passion d'une imprudence folle, mais les études, c'était sacré.
J'ai appris à lire, bon, j'étais très 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 jeune, et je me souviens que ma mère écumait... La bibliothèque, il y en avait une pour enfants à l'époque qui était près de Saint-Séverin, L'heure joyeuse.
Natacha Cochery.
Et donc j'ai des souvenirs d'aller avec elle, souvent, puisque je dévorais les livres et qu'elle se retrouvait sans livre. Et donc j'ai lu énormément. J'étais systématique, donc j'ai lu toute La Comtesse de Ségur, La Comtesse de Ségur, tous les Clubs des Cinq. Puis plus tard, quand j'ai grandi, j'ai fait du russe en deuxième langue, donc j'ai lu tous les Dostoïevski, tous les Tourguenieff, j'ai lu tout Zola, j'ai lu tout Balzac, je faisais par...
Systématique, quoi.
Un petit peu. Mais c'était une maison de livres. Il n'y avait que des livres dans cette maison. Et tu avais raconté...
Ça c'est une anecdote absolument... Ouais. Ça c'est une anecdote merveilleuse. J'écrivais ma thèse de troisième cycle. Donc Natacha devait avoir 5 ans, elle est née en 60, c'est facile. J'ai soutenu ma thèse de troisième cycle en 66. Elle était donc encore en maternelle. Et au retour de l'école maternelle, je la mettais dans sa chambre. Il y avait une porte qui était juste en face de mon bureau. Et j'avais mis une barrière en bois, vous savez, pour empêcher les bébés de circuler. Et elle était accrochée à la barrière en bois, en train de me regarder, en train d'écrire. Et quand elle dessinait, ça je le savais, on me donnait une feuille de papier, et elle faisait semblant d'écrire avec le crayon. Donc elle remplissait la feuille avec des gribouillis. Un jour, je me suis fait convoquer par la maîtresse, qui m'a dit, c'est tout à fait anormal, je leur donne du dessin libre et regardez ce qu'elle me fait. J'ai ri, je lui ai dit, ben, elle écrit ma thèse, ne vous inquiétez pas.
Les affiches de Paris, 24 février 1746. Maison bourgeoise, la plus jolie qui soit à Montmartre, proche de la paroisse, ayant vue sur toute la plaine. Une salle, cuisine, cave, cour, puits, jardin, piédestal de pierre de taille, propre à recevoir. Les affiches de Paris, 14 avril 1749. Grand hôtel à vendre à vie, ou autrement à bonne composition rue des Minimes, contenant 1260 toiles de terrain, composées de deux grandes cours, un jardin, écurie pour 40 chevaux, 5 grands appartements de maîtres et beaucoup de logements de domestiques dans la mouvance du roi.
À l'époque, j'étais à Paris 1 et c'était merveilleux. Enfin, j'ai eu une année, puisque j'avais l'équivalence et je suis entrée directement en troisième année. Mais j'ai eu des professeurs, mais d'une...
Alors, qui donc, alors, Natacha Cottery, votre...
Robert Fossier, qui était médiéviste, urbain, et qui était fascinant. Et donc, en moderne, j'avais un autre couple pas mal, qui était Daniel Roche et Jean Jacquard. Alors, j'ai hésité entre histoire moderne et histoire contemporaine, et plus précisément entre 18e et 19e siècle. Et je me souviens très bien être allée au moment où il faut choisir un directeur de maîtrise, à l'époque, on dirait master aujourd'hui, être montée au troisième étage de la Sorbonne. Il y avait deux bureaux qui se faisaient face. Il y avait Daniel Roche et il y avait Maurice Agulon. Bon, alors, je m'étais focalisée sur ces deux-là, et j'ai commencé par Maurice Agulon. Et j'en suis sortie un peu dubitative, parce que le personnage était froid. Et donc, j'ai toqué la porte d'en face, qui était Daniel Roche, et là, bon, ben, le courant est passé tout de suite, il n'était pas froid. Et cette chaleur a fait que je me suis dit, bon, ben, ce sera le 18e. Et je me souviens très bien être venue voir Daniel Roche et lui dire, je voudrais un sujet avec des mots. Un sujet d'histoire littéraire. Et il m'a proposé un sujet sur les manuels de civilité. Et j'ai démarré, et je me suis horriblement ennuyée. Et je suis revenue, je lui ai dit, non, ça va pas du tout, hein, ça me plaît pas. Alors il m'a dit, mais enfin, mais c'est vous qui m'avez demandé un sujet avec d'histoire littéraire. Je lui ai dit, non, ça me va pas. Et c'est là où il a eu l'idée des annonces immobilières, hein, dans les journaux, dans la presse de l'époque, à partir d'un journal, les affiches de Paris. Et j'ai travaillé sur les transformations de l'habitat au fil de ce que je pouvais lire à travers la formulation des annonces avec l'apparition des notions de confort ou la spécialisation des pièces. Et là, ça m'a beaucoup plu. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, mais sans doute parce que justement c'était spatialisé. Je me retrouvais dans un milieu, puisque c'était dans Paris, avec des noms de rues, et c'était de l'histoire matérielle.
Par contre, alors l'histoire de l'Afrique, ça vous est même pas passé?
Ah ben non, parce qu'il fallait quand même que je me construise indépendamment de ma mère, hein. Et ça m'a même pas effleurée.
On connaît maintenant les tristes conséquences du drame d'Alger. 25 morts, 140 blessés. Depuis le matin, un important service d'ordre était en place dans la ville, jusqu'alors relativement calme. Mais l'après-midi, la foule, que des tracts avaient appelé à manifester, commençait à édifier des barricades.
Les actualités françaises, 27 janvier 1960.
À mesure que les heures passaient, la tension augmentait. Des groupes venus de Bab el-Oued et d'autres qui descendaient la rue Michelet se trouvaient réunis pour prendre ensemble le chemin du monument aux morts. Dans ce climat de fièvre où trop de mains serraient des armes, des coups de feu allaient retentir. Quelques minutes plus tard, c'était le drame. Au matin, les boutiques sont restées fermées dans un large périmètre autour du bastion établi par les émeutiers au cœur d'Alger. Derrière les barricades,
début des années 60, mon mari était un sursisteur tardif. Il a été mobilisé pour la guerre d'Algérie. J'étais très contente, il était très myope. Donc il était classé inapte opérationnel, ce qui me rassurait beaucoup. Il était cartographe, puisqu'il était géographe, cartographe à Oran. Et donc je suis allée à Oran pour le voir. Moi j'étais prof de lycée à l'époque, pendant les congés scolaires, puis après mon congé de maternité, j'ai passé tout l'été. Natacha, ma fille aînée, est née à Oran à cause de ça. C'était assez épique, parce que c'était 1960. Et j'ai eu un coup au cœur. Ce coup au cœur, je l'ai eu en atterrissant à Oran. J'ai trouvé ça mais tellement beau. Puis après, effectivement, c'était la guerre. On a connu des Algériens un petit peu de tous bords. Et effectivement, ça, dès qu'ils étaient pro-FLN, bon, ils ne le disaient pas, mais on le pressentait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire au Moyen-Âge? Parce qu'au Moyen-Âge, bon, ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup. J'avais fait on appelait ça le diplôme à l'époque. La maîtrise sur les banquiers lombards à Paris sous le règne de... Alors là, vous savez, là, Philippe le Bel ou Philippe Auguste. Ça,
en l'histoire médiévale,
il y a quand même
plusieurs
siècles de différence. Maintenant, j'ai oublié. Alors, je ne devrais pas le dire, mais... Mais je me suis dit, non, là, j'ai envie de... Il y a tout un domaine que je ne connais pas. J'ai envie de le comprendre. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ben, il faut en connaître l'histoire. Donc c'est vraiment le fond de ma profession. C'est pas de l'histoire militante, c'est l'histoire engagée, ce qui est tout à fait différent. Parce que l'histoire engagée, ça veut dire que on a un certain nombre d'idées, qu'on en est conscient. Je disais toujours ça à mes étudiants, l'histoire n'est pas une science exacte. D'abord, les versions changent suivant les époques, elles changent suivant les historiens, suivant les positions justement des historiens. Et il faut le savoir. Pour essayer d'être le plus rigoureux possible par rapport aux sources, par rapport aux documents. C'est pour ça qu'on dit qu'une des qualités majeures de l'historien, c'est le doute.
Je suis enseignante-chercheuse et il est vrai qu'à mes yeux, dans ce métier-là, l'enseignement est pour moi aussi fondamental. Ce que j'essaye d'apprendre aux étudiants, c'est d'abord l'esprit critique et ensuite de leur montrer en quoi la connaissance du passé permet de comprendre le présent. Fondamentalement, c'est ça. Et si je liais les deux, en gros, ce serait d'être citoyen, pensant. Le reste, c'est littérature, pardon, à mes yeux. Voilà, c'est d'apprendre à penser.
Donc, j'étais partie en Algérie en pensant que j'allais faire une thèse d'histoire médiévale. J'avais même mon sujet, et donc j'ai changé. Mais mon mari a fait la même chose. Alors lui, c'est parce que, véritablement, il était aussi exceptionnel pour son temps. Enfin, exceptionnel, il y en avait d'autres, comme ça. Mais enfin, il était content que je fasse ce qui me plaisait. Et donc, il a dit, si toi, tu pars en Afrique noire, on disait à l'époque, mais on dit Afrique subsaharienne, et que moi, je vais en Italie du Sud, on ne se verra jamais. Et donc, il a changé de sujet de thèse.
C'est lui qui a changé de sujet.
Déjà, il avait déjà passé un été à travailler très fort dessus, mais un peu plus. Mais en fait, c'était très généreux de sa part. Il m'a toujours poussé.
Et ça, vous pensez, Catherine Vidrovitch, que c'est un peu exceptionnel quand même pour votre génération, et peut-être encore aujourd'hui que ça soit le mari qui est chercheur aussi, parce que vous êtes un couple de chercheurs.
Oui, écoutez, en fait, le nombre de collègues de mon mari ou de moi qui ont épousé des professeurs de lycée, des enseignantes, est quand même très très important. Et le nombre d'épouses qui aimaient l'histoire, qui ont aidé leur mari, est aussi très important, dans ma génération, en tous les cas. Mais enfin, disons que la norme, c'était plutôt le mari fait sa thèse. Alors, ça, c'était assez drôle. Enfin, assez drôle. On en a ri à l'époque. Le mari finissait sa thèse, ça n'en finissait pas, et ça finissait par un divorce. Il soutenait sa thèse et il divorçait. Parce que moi, j'ai été très favorisée, en réalité. J'ai été recrutée, donc j'arrivais au moment où la sixième section des hautes études s'organisait, vraiment, où Braudel voulait créer un centre d'histoire, d'études africaines, comme il y avait déjà un centre d'études
par aire géographique,
géoculturelle non française. Et il cherchait un historien. Cet historien était Henri Brunschvicg. Et Henri Brunschvicg avait le droit de recruter, on appelait ça chef de travaux à l'époque. Et c'était moi qui avais été retenu. Donc pendant une dizaine d'années, quand même de 61 à 71, j'étais aux études avec très peu de charges. Et j'ai rédigé ma thèse comme si j'étais au CNRS finalement. Tandis que Michel, lui, il a toujours été enseignant. Et puis, à la création de Vincennes, de l'université de Vincennes, on manquait de profs à l'époque. Il a été recruté comme professeur, chargé de professorat, en attendant qu'il ait soutenu sa thèse. Donc, il fallait qu'il finisse sa thèse. Et sa thèse, elle traînait, parce qu'il avait beaucoup de charges. Moi, j'avais rien à faire que ma thèse. Mais quand j'allais sur le terrain en Afrique, je suis partie 4 mois... Ben, Natacha avait 5 ans, sa petite sœur en avait 3, et j'ai laissé les deux gamines au bon soin de mon mari. J'ai été très soutenue par lui, très soutenue toujours. Alors donc, sa thèse traînait à la fin. Tout d'un coup, je me suis dit, j'en ai marre, il faut qu'il la finisse aussi. Je me souviens, c'était à Pâques, je me suis dit, ça va être le dernier été où il fait sa thèse, parce que sinon, franchement, j'en ai marre. Et alors, on a eu une discussion, et il me disait, oui, mais j'ai encore 2 chapitres à écrire, il me faut encore 1 an. Et on a passé la nuit à lui dire, non, personne ne s'apercevra que tu n'as pas écrit ces 2 chapitres, parce qu'elle est très grosse, elle a 3 volumes, à l'époque du test d'État, c'était quelque chose. Et je lui ai fait croire, absolument, très consciemment, parce que c'était pas vrai, je lui ai fait croire que s'il décrivait encore sa thèse l'été d'après, on divorcerait. Il m'a cru, il a fini.
Registre du 20 juillet 1723. Avons acheté un secrétaire de 2 pieds et demi de bois d'ébène vert, garni de 65 livres. Avons acheté un paravent de 4 pieds et demi en feuilles des Indes. Avons acheté 2 trumeaux de 6 pieds de haut sur 2 pieds de large, en 2 glaces dans ses bordures dorées et sculptées, à 118 livres chaque. Avons acheté un feu représentant des singes montés en fer et en couleur de Monsieur Boulle, 212 sols, 12 pour les porcs. Registre du 29 juillet 1723.
Et après, donc, Natacha Coquille, vous poursuivez.
Donc, j'ai poursuivi sur une thèse sur l'hôtel aristocratique. Et là, c'est grâce à un autre enseignant. Et j'ai fait la connaissance de Jean-Nicolas, qui était un professeur à Paris 7, qui a écrit un très beau livre là, sur révolte et rébellion. Enfin, et donc, j'avais fait la rencontre de Jean-Nicolas, qui m'avait dit « Allez voir dans la série T ». Parce que c'est une série aux Archives nationales qui est très méconnue et c'est les séquestres révolutionnaires. Donc j'ai obéi, j'ai été dans la série T. Et là j'ai trouvé tout. Puisque c'était tous les papiers pris dans les hôtels aristocratiques émigrés. Et donc l'administration révolutionnaire avait empoché tous les papiers. Et je m'étais dit, bon, je vais m'intéresser sur l'intérieur, sur le décor intérieur, sur comment on habitait ces hôtels. Et là, à nouveau l'ennui. Bon. Je me suis dit, oh non. Et puis je suis tombée sur ces factures. Donc des factures de tout et n'importe quoi, écrites sur des supports très variables. Et là, je suis tombée amoureuse des factures. Je ne sais pas pourquoi. L'archive vous parle ou non. Là, j'ai commencé à travailler sur la consommation et donc sur l'histoire de ce marché du luxe à partir des... Puisque il y avait sur ces factures des tas de renseignements sur les marchands, sur les objets achetés, et c'est là où j'ai construit tout ceci.
Et Daniel Roche, Natacha Coquerie. Bon, c'est un peu l'historien du culturel, des apparences. Enfin, c'est un petit peu quand même très novateur à l'époque.
Oui. C'est pas un petit peu, hein, c'est très. Donc, son séminaire auquel j'ai assisté du début de mes études à partir de la maîtrise jusqu'à la fin de son séminaire. Et au début, pendant des années, qu'il a fait avec un autre historien, mais qui était pour moi aussi un très très grand, c'était Jean-Claude Perrault. Et le mélange des deux, je pense qu'il nous a été donné là quelque chose d'exceptionnel à nous autres étudiants. C'est dans son séminaire qu'il a fait connaître les tout premiers ouvrages des Anglais, et surtout anglaises, qui portaient sur la culture matérielle, justement. Et en France, ça n'existait même pas. Enfin, il n'y avait rien.
Donc là, dans les années 80, c'est un peu, oui, c'est un peu le début, quoi.
Ouais, c'est le début. Bah, c'était ces Anglaises qui s'interrogeaient sur la consommation. Hein. C'est l'histoire de la consommation, sur les inventaires après décès, et ce que ça pouvait apporter en termes, effectivement, d'histoire sociale. Or, ces historiennes anglaises avaient réussi ce tour de force-là de penser à partir d'une source très terre-à-terre et qui ne fait que décrire des nombres d'objets, et on pourrait rester à compter des petites cuillères. Et donc, Daniel, justement, présentait tous ces possibles. Et à l'époque, c'était vraiment inédit.
Brazza, l'épopée du Congo, 1939.
Le roi Makoko, chef des Batékés, ayant concédé son territoire à la France, à laquelle il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie, et désirant, en signe de cette cession, arborer les couleurs de la France, je lui remis un pavillon français, et par le présent document, fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises à mon égard, en me considérant comme le représentant du gouvernement français.
Pour poursuivre sur ce, voilà, votre choix de faire l'histoire de l'Afrique, donc vous faites du terrain, Catherine Widrowicz. Mais cette histoire de l'Afrique, c'est un peu à l'époque, c'est encore une histoire très coloniale, ou alors anthropologique. Enfin voilà, vous êtes prise aussi dans ces bouleversements, en fait, ces bouleversements à mettre en œuvre, on va dire.
Oui, alors. J'ai eu la chance, effectivement, de... Quand j'ai eu envie de faire l'histoire de l'Afrique, c'était rare. Donc, à partir du moment où il y avait une place quelque part, c'était pas très difficile. Brunswick avait mis la main sur des archives totalement inédites qui venaient d'arriver dans des grandes caisses assez mal classées d'Alger, où l'explorateur savonien Brazza s'était installé à sa retraite. Personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Alors Brunswick s'est plongé dans la première mission, puis dans la deuxième mission d'exploration de Brazza, et puis il m'a donné en thèse de troisième cycle la troisième mission. C'est-à-dire que mon boulot, c'était d'abord de classer les archives, d'en publier un certain nombre, de choisir celles que je voulais publier, de les faire annoter par les spécialistes, justement, soit géographes, soit anthropologues, tous ces gens qui étaient aux études, et puis de faire une grosse introduction. C'était ça, ma thèse de troisième cycle. Donc, quand je suis parti en 65 en Afrique, mon idée, c'était de reconstituer le voyage de Brazza, évidemment. Alors, je pouvais pas le faire à pied, comme il avait fait. Je pouvais pas le faire en voiture non plus, parce qu'il n'y avait pas de route. Et puis alors, donc je suis partie toute seule, un peu inquiète quand même, en me disant qu'est-ce qui va m'arriver. Enfin, j'avais 28, 29 ans. J'ai laissé les enfants au mari, à leur père, et je suis partie avec, en sachant que j'irais dans l'intérieur. Alors j'avais un sac à dos, je me souviens, j'avais acheté une gourde, et cette gourde était en toile. Et elle fuyait. J'ai eu pendant 4 mois une grande gourde qui fuyait dans mon sac à dos. Et puis j'avais acheté aussi une lampe, vous savez, ces lampes but à gaz là, pour le soir. Seulement, je m'étais trompée de modèle. Je ne savais pas qu'il y avait un seul modèle au Gabon, où je commençais, qui n'était pas celui de ma lampe. Donc quand ma bouteille a été finie, j'ai plus de lampe, parce qu'il n'y avait pas de lampe au Gabon à l'époque. Je savais que je me couche comme l'épouse, ce qui n'est pas du tout ma nature, puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Et puis j'ai fait des sauts de puce en des petits avions tout à fait baroques.
Et vous faisiez des interviews, des entretiens?
Je cherchais des archives, évidemment, parce qu'il y en a, il y en avait beaucoup, qui étaient dans un état souvent épouvantable. Et puis je cherchais des témoins. J'ai rencontré des vieux missionnaires extraordinaires. Il y en avait un qui m'a raconté qu'il est arrivé en 1924, remontant l'Ogoué avec sa femme, qui était un protestant, avec sa femme et ses deux petits-enfants qu'ils avaient mis dans un garde-manger grillagé pour pas qu'ils soient piqués par les moustiques. Des vieux colons retraités depuis longtemps, imbibés d'alcool, enfin des phénomènes coloniaux un peu à la Conrad, quoi, absolument. Des reliquats, si vous voulez. Oui, oui, j'en ai rencontré pas mal, qui étaient contents de parler.
Et des Gabonais, des gens, des, voilà, pas que
des... Des Gabonais aussi, pas beaucoup, parce que c'était...
C'était pas l'objet de votre...
Ouais. C'était pas tellement l'objet de mon voyage, si, bien sûr. Mais c'était pas facile, parce que le Gabon était encore très, très, très colonial. Néo-colonial, vraiment. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Je n'avais pas imaginé le racisme colonial comme je l'ai vu au Gabon, encore plus qu'au Congo. Enfin, de temps en temps, je me disais, je me pince pour savoir si je suis en 1890 ou en 1965. Enfin, je n'en revenais pas. Je me souviens d'un dîner chez un chercheur de l'Orstom, à Libreville. On n'était rien qu'entre blancs, évidemment, parce que les gens ne se recevaient pas. Et puis la dame nous disait, donc l'épouse du chercheur nous disait que les Gabonais, c'est, ils sont bêtes, ils sont demeurés, etc. D'ailleurs, vous allez voir, je vais appeler mon boy et puis je vais lui demander quelque chose, il ne va pas comprendre. Elle a appelé boy, elle lui a demandé je ne sais quoi, et lui il a fait le bête, puisqu'il fallait qu'il fasse. Moi je me disais, mais enfin, lequel se moque de l'autre, et j'avais envie de me glisser sous la table. Mais ça, c'est une anecdote, mais j'en aurais 10 ou 12 à raconter comme ça. Quand je rentrais dans un bureau de poste, tous les Noirs, tous les Gabonais s'écartaient parce que j'étais blanche, il fallait que je passe d'abord. 5 ans après l'indépendance, oui, j'étais assez suffoquée.
Lecture pour tous, 25 août 1965.
Chez Julliard, dans l'excellente collection Archives, la découverte de l'Afrique par Catherine Cochery. Je suis l'historienne de l'Afrique, elle est chef de travaux à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne, et je dois dire que la lecture de ce livre est absolument passionnante. Une constatation s'impose à la lecture de ce livre, c'est que l'Afrique, qui est le continent le plus proche de nous, a été probablement le plus tard mal connu. Et il y a à cela différentes raisons, Catherine Cochery, des raisons géographiques, mais des raisons qu'on pourrait qualifier aussi d'imaginaires, de fabuleuses.
Puis évidemment, les premières raisons ont été géographiques, dans la mesure où l'Afrique est relativement proche des autres continents, mais que les conditions naturelles l'ont rendue très difficilement accessible. Je parle ici surtout de l'Afrique occidentale, de l'Ouest africain, puisque c'est à l'Ouest africain que je me suis surtout attachée. L'Ouest africain forme un ensemble.
En tous les cas, Catherine Dorwitch, donc là vous revenez après vos 4 mois, puis vous écrivez à l'autre thèse. Et donc, quels sont alors les enjeux sur justement l'histoire de l'Afrique à l'époque?
Oui, alors, en 1960, au moment où j'ai décidé de commencer, ou en 61 ou 62, l'université ne connaissait pas l'histoire de l'Afrique. Et la conviction des historiens professionnels était, il n'y a pas d'histoire de l'Afrique puisqu'il n'y a pas de sources écrites. Double sottise, parce que d'une part il y a beaucoup de sources écrites différentes, y compris des sources écrites par des Africains à partir du XVIe siècle dans les langues européennes. Et puis il y a toutes les sources orales.
Mais par contre, il y a les anthropologues alors à l'époque.
Beaucoup d'anthropologues et des jeunes anthropologues.
Africanistes qui partent sur le terrain.
Il y avait aussi des jeunes historiens qui allaient, au même moment que moi, de ma génération, qui avaient découvert l'Afrique en coopération. Je me suis aperçu après coup, et ça a été important dans notre formation, que seul Henri Moniaux et moi étions en France dans les années 60. Donc, nous sommes les deux seuls à avoir connu mai 68. Jean-Pierre Chrétien, Françoise Raison, Jean-Louis Triot, les autres historiens de ma génération étaient en Afrique, effectivement, en train d'écrire leur thèse d'ailleurs. Mais avec cette idée qui existe encore jusqu'à présent que les anthropologues, leur domaine, c'était l'Afrique, et que les historiens n'avaient rien à y faire parce qu'ils y écrivaient de l'histoire coloniale. Ce qui était parfaitement vrai en 1960. Ils avaient tout à fait raison. Mais qui n'est plus du tout vrai depuis 1980.
Et sur une autre question aussi, toutes les deux, je voudrais vous solliciter la question de l'historien engagé. Catherine Vidrovitch, alors, il faut dire que vous devenez historienne dans une période particulièrement agitée, mobilisée. Hein. Il y a la décolonisation, on sort de la Seconde Guerre mondiale, décolonisation... Guerre d'Algérie, oui. Mai 68, enfin...
Tout à fait, si vous voulez, quand je travaillais sur l'histoire africaine, ça répondait bien à mon idée d'engagement. J'étais anti-colonialiste, évidemment, dans les années 60, et donc ça m'intéressait d'essayer de démêler tout la façon dont s'était passée la colonisation et la colonisation économique de l'Afrique équatoriale. En l'occurrence, quelquefois je disais, j'ai fait une thèse d'État sur rien parce qu'il ne s'était rien passé. Alors.
D'une certaine manière, Natacha Cochery, alors votre mère, elle va choisir un sujet très militant à l'époque, c'est en pleine décolonisation, elle décide de changer, de ne plus faire l'histoire médiévale, de faire l'histoire de l'Afrique. Et vous avez l'air de nous dire que votre génération à vous, bon, vous choisissez un sujet de thèse qui n'est pas directement engagé, entre guillemets.
Non, du tout.
Mais vous allez investir cet engagement dans l'enseignement ou, par exemple, le comité de vigilance des usages publics de l'histoire.
Oui. Ben, là encore, c'est à contextualiser à nouveau. Hein. Donc, ma mère commence, c'était dans tout début des années 60. Et il y avait cet espoir de changer le monde. Enfin, bon, j'ai beaucoup participé à l'essai en 2009 de changer ce qui se passait. Vous savez, vous souvenez, il y a eu quand même des grèves assez longues dans le supérieur. Et aujourd'hui, ce sentiment d'être démuni et de ne plus savoir quelle forme de lutte inventer. Bon, alors il y a Nuit debout. C'est une autre forme de lutte, effectivement, là, qui vient de se créer. Mais voyez, ce sentiment de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le pouvoir politique en place? C'était long, ces grèves en 2009. Enfin, bon, là, LRU est passé, et le pouvoir suivant l'a repris, et que on peut tempêter, ça ne change pas. Et donc, c'est vrai que c'était par la tangente, enfin, toujours cette possibilité de former les étudiants à l'esprit critique, et puis, en effet, d'autres formes comme le CVUH, qui sont d'autres formes
de militance, enfin, et de...
Oui.
De...
Oui, ceci
pas
étant,
que sur l'histoire,
oui.
Sur la citoyenneté en général,
sur bien sûr.
Si Nicolas Sarkozy avait maintenu son voyage aux Antilles, voici un avant-goût de ce qui l'attendait. Un millier de personnes en colère dans les rues de Fort-de-France qui manifestent contre cette fameuse disposition de la loi de février 2005 qui souligne le rôle positif de la colonisation.
France 3, 8 décembre 2005.
Et vous me méprisez, donc on va vivre ma douleur, il faut que je sois là. Et là, la douleur va monter. Parce que je me dis que je ne peux pas être aussi respectueux.
Face à cette douleur ravivée, le Premier ministre Dominique de Villepin réagit ce matin sur France Inter. Il veut calmer les esprits.
Nous avons besoin d'être enrichis par le regard et les travaux des historiens. Mais première règle, ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas au Parlement que d'écrire l'histoire ou de dire la mémoire.
Hier soir, sur notre antenne, Nicolas Sarkozy avait dénoncé cette habitude qu'ont les Français de dénigrer leur histoire.
Je crois qu'il faut cesser avec la repentance permanente en France pour revisiter notre histoire. Mais ça devient ridicule.
Tous les soirs que j'avais, je commence à le faire. Il y a bientôt 10 ans. Que j'attends ta promesse.
Il y a eu toute cette polémique sur l'histoire de la colonisation qui a commencé à partir de la fin du siècle dernier et surtout à partir de la loi Taubira de 2001 plus la publication d'Olivier Pétré-Grenouillot sur l'esclavage, plus le scandale, plus tous les historiens qui ont pris fait et cause dans tous les sens de façon, à mon avis, très polémique et très peu scientifique. Alors tout d'un coup, ça m'a fâchée et j'ai écrit un petit bouquin où j'ai essayé de faire l'historique très précis de tout ce qui s'était passé. S'il n'y a pas d'effet positif, il n'y a pas d'effet négatif, il y a des effets dont on ne sait pas comment ce qu'ils vont donner à court, à moyen ou à long terme. Ça peut être très bien à court terme et très mal 20 ans après, ou le contraire. Donc ça ne veut rien dire, c'est un jugement moral, c'est pas un jugement scientifique. Et donc j'ai écrit un petit bouquin là-dessus.
Le discours de Sarkozy aussi, à Dakar, non, vous êtes allé jusque-là.
Et c'est là que je suis arrivée au discours de Sarkozy. Et quand je l'ai vu, alors, ayant lu tout ce qui s'était écrit Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il l'ait prononcé en 2007. Non, je dois me tromper, il a dû dire ça en 2003 ou 2004. Pas possible, avec tout ce qui s'est écrit avant 2007, il en était encore là. Il a fallu que j'aille vérifier. Mais c'est incroyable.
De la patience à ses limites.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Discours de Dakar, juillet 2007.
Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
Pourquoi ce comité de vigilance d'historiens ?
Quand j'ai appris que ça se formait, j'y ai été tout de suite. Mais effectivement, là, c'était en réaction très fort, hein, avec cette loi sur les bienfaits, les soi-disant effets positifs de la colonisation, et donc autour de Gérard Noiriel, de Michel Rio-Sarcey, pour en discuter. Et
en fait, c'est l'idée quand même, voilà, Natacha Cochery, voilà, donc c'est cette loi sous le gouvernement Sarkozy qui demande aux enseignants du secondaire de quand même enseigner l'effet positif de la colonisation.
Oui, oui.
Là-dessus, il y a aussi des discours politiques sur la question de repentance. Il y a aussi des stèles qui sont apposées commémorant d'anciens de l'OAS, par exemple. Enfin.
Oui, oui. Et il y avait aussi cette histoire de la maison de l'histoire de France à l'époque. Hein. Et là, c'est une autre historienne, Isabelle Bacouche en particulier, hein, qui a beaucoup œuvré pour en montant des séminaires militants, vais-je dire, à l'EHESS, qui a beaucoup travaillé cette question-là. Et à mon tour, moi, ce que je l'ai renvoyé aux étudiants, et je les ai fait justement réfléchir sur ces liens entre histoire, mémoire et politique. Et puis, le dossier sur la maison de l'histoire de France. Donc, si vous voulez, c'est là où se situe, je dirais, mon action militante. C'est-à-dire que je m'empare de problèmes actuels où l'histoire est prise à partie, où l'historien est prise à partie. Et je renvoie ça et j'en discute avec les étudiants. Et je me suis rendu compte à quel point ces étudiants en avaient besoin. C'est une attitude tellement passive. Je trouve notre enseignement en général, c'est-à-dire que l'étudiant gratte, il vient en cours et il écrit. C'est cette manière-là que je ne suis plus prête à faire.
Le fait aussi d'être une femme historienne. On sait que dans l'université, à partir d'un certain niveau, il y a beaucoup moins de femmes. Voilà.
Oui, ça c'est sûr. Il y a un plafond de verre aussi. Oui, c'était très important. Quand j'ai été à Nantes, oui, là j'ai senti que... Les femmes, c'était bien pour être maître de conf, mais prof, fallait pas exagérer quand même. Parce que je posais des questions. Je ne suis pas du tout révolutionnaire, mais je n'ai pas peur, en fait. Mais ça, je pense que c'est parce que je suis née dans le milieu. Donc tous ces enseignants ne me font pas peur. Donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Bon, mais c'est ceci étant, je me rends compte... y compris à l'université où je suis, qui est une université soi-disant de gauche, et là aussi, les bras m'en sont tombés. Enfin, le mandarinat masculin est très existant. J'avais une grand-mère qui avait l'oreille absolue et dont le rêve aurait été d'être chef d'orchestre, mais à l'époque, c'était pas vraiment dans les années 30. Enfin...
Thank you.
première fois que je me suis présentée à un poste de prof, c'est un ami qui m'a traduit ça, qui m'a dit, que voulez-vous, vous avez 3 handicaps. Alors j'ai dit, lesquels ? Vous êtes jeune, vous êtes femme et vous êtes rouge. Alors moi je lui dis, jeune ça passe, femme j'y peux rien. Et rouge, c'est un peu exagéré. Mais donc ça jouait, ça c'est sûr. Et alors quand j'avais quand même, j'avais des problèmes de temps en temps, des questions de ce genre. Alors, et ma mère, après la guerre, s'est remariée avec donc mon beau-père, qui est un homme que j'aimais beaucoup, qui ne s'est pas du tout pris pour mon père, justement. Quand je lui faisais part de problèmes de ce genre-là, il disait, ne t'occupe pas, travaille. Il y a la seule chose à faire, travaille et puis tu verras bien. Et donc j'ai vraiment appliqué ce genre de choses.
Ce principe.
Ce principe.
Toute la fratrie, on a été élevés dans cette façon-là, c'est-à-dire suis ton bonhomme de chemin. Et puis ce que disent les autres, ma foi, travaille.
Merci à Catherine Kokri-Vidrovitch et Natacha Kokri. Prise de son, Jérémy Thuil et Jean-Michel Bernot. Mixage, Stéphane Desmonts. L'histoire de Mère en fille, un documentaire de Séverine Liattard et Véronique Samouilov.
Notre semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à cette relation entre mère et fille, en évoquant demain les transmissions entre mère et fille au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, surtout avec des historiennes qui nous accompagneront. Et jeudi, nous nous poserons la question débattue chez les historiens et chez les historiennes, de la question du matriarcat. Y a-t-il eu des régimes ou des cultures matriarcales ? Ça sera la question que nous poserons jeudi. Et puis je vous rappelle que vendredi, nous serons en direct de l'Institut du Monde Arabe à l'occasion des rencontres d'histoire du monde arabe, donc des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, qui s'y tiennent tout le week-end, donc et nous y serons pour évoquer avec des jeunes chercheurs et chercheuses les dangers et les difficultés de travailler sur les terrains d'études du monde arabe. C'est en direct, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de France Culture. Site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également y écouter l'émission que nous venons de diffuser, ainsi que toutes les autres. Elles sont téléchargeables pendant l'année qui suit leur diffusion. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre encore sur le réseau Twitter Fabrique FC. C'est l'adresse sur Twitter de la Fabrique de l'Histoire.